SBS Radio.
Allez, rubrique rétrospective pour aujourd'hui, en ce samedi 2 mars. C'est donc arrivé un 2 mars en 1848. En France, un décret était adopté pour limiter la durée du temps de travail. Rétrospective signée Émile Matasso avec les archives sonores de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo.
La voix d'Henri Salvador, le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Le travail, au centre de l'activité des humains, de tout temps, de l'homme préhistorique à aujourd'hui, travailler pour se nourrir, travailler pour produire, travailler pour gagner de l'argent. La régulation du temps de travail est une quête sociale. Les employés ont dû batailler des décennies pour obtenir une réduction du temps de travail. En France, c'est donc en 1848 qu'un premier pas significatif a été fait. Le soulèvement de Paris a mis fin à cette époque à la monarchie de Juillet et au règne de Louis-Philippe. La Deuxième République a été proclamée avec, dans la foulée, dans ces journées de février-mars 1848, toute une série d'avancées. Abolition de l'esclavage, rétablissement du suffrage universel masculin et ce décret du 2 mars 1848 qui fixa la journée de travail quotidienne à 10 heures maximum à Paris et 11 heures en province. Retour sur le contexte historique de ce décret avec le site internet Veni Vidi Sensi.
Ce gouvernement provisoire, déjà, il est intéressant parce qu'il est composé par des hommes assez différents. On trouve un petit peu de tout, on trouve des avocats, des banquiers, mais on trouve aussi un poète comme Lamartine, et on trouve surtout des gens comme Louis Blanc qui sont des socialistes, et même un ouvrier, parce que au gouvernement siège un ouvrier que tout le monde appelle l'ouvrier Albert, même s'il s'appelle en réalité Alexandre Martin, et donc la tendance qui se réunit autour du journal La Réforme, mais voudrait aussi se concentrer sur la condition de vie des travailleurs et des ouvriers. Et donc c'est pour ça que Louis Blanc, l'ouvrier Albert, commence à siéger au Luxembourg, au sein de ce qu'on appelle la Commission du Luxembourg, qui est chargée de réfléchir à toutes ces conditions de travail. Notamment, c'est cette commission qui envisage de créer la journée de travail limitée à 10 heures, à une époque où le travail n'est pas limité légalement. C'est aussi sous leur impulsion que sont créés les ateliers nationaux, qui sont des grands chantiers d'État, qui sont créés avant tout pour lutter contre le chômage. Et donc ça, c'est des mesures qui sont très populaires, logiquement, auprès des ouvriers, en particulier des ouvriers parisiens qui sont assez nombreux.
Ce décret du 2 mars 1848 explique, je cite, « qu'un travail manuel trop prolongé non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore, en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l'homme ». Oui, c'est une quête sociale, même si 11 heures de travail par jour, cela fait 66 heures par semaine. Mais, et l'essentiel est là, les ouvriers, la classe populaire se sont fait entendre. Les choses, néanmoins, vont se gâter par la suite. En juin 1848, la majorité conservatrice de l'Assemblée décide de fermer ces fameux ateliers nationaux. S'ensuit une révolte du peuple de Paris, durement réprimée. On parle de 15 000 tués ou blessés entre insurgés et forces de l'ordre. La loi sur le temps de travail sera d'ailleurs modifié quelque temps plus tard, le décret du 2 mars 1848 revu pour remonter à 12 heures de travail quotidien. Il n'empêche, ce décret fera date dans l'histoire de la réduction du temps de travail en France. Les conquêtes suivantes en la matière, elles ont été longues à se dessiner. Elles ont toujours été portées par la gauche progressiste, là où la droite défendra spontanément les intérêts du patronat, des employeurs, la gauche défendra les ouvriers, les salariés. 1848 donc, puis 1936, en attendant 1981. 1936, la gauche et le Front populaire au pouvoir avec Léon Blum, 40 heures de travail hebdomadaire et des congés payés.
Depuis 1936, la gauche a toujours voulu être à l'origine des avancées sociales et la réduction du temps de travail a toujours été au cœur des programmes électoraux des formations de gauche. Les grandes étapes de cette évolution avec Roselyne Febvre.
Nous voulons rendre confiance en elle-même
à la fin laborieuse.
C'était l'engagement de Léon Blum juste avant la victoire du Front populaire. Avril 1936, il gagne les élections, puis suivent mai-juin, deux mois qui vont changer toute notre histoire sociale. La classe ouvrière y croit et dans un grand mouvement d'enthousiasme, elle provoque grève et occupation d'usines dans toute la France pour forcer le Front populaire à honorer ses promesses et faire avancer les négociations.
Dans le Nord, la plupart des usines sont occupées par les ouvriers.
Au mois de juin, le gouvernement Blum organise les négociations, suivront les accords de Matignon qui scelleront la loi sur les congés payés et celle sur la semaine de 40 heures payée 48. En 1981, pendant sa campagne électorale, François Mitterrand veut suivre les pas de Léon Blum et ressortir les vieilles recettes de 36. Dans les 110 propositions du candidat Mitterrand, il y a le passage aux 35 heures.
C'est parce que je veux que chaque travailleur travaille 35 heures pour partager le travail sans perte de salaire, afin que les entreprises, emportées par la production et la productivité, c'est-à-dire gagnant de l'argent, embauchent d'autres travailleurs pour que les machines tournent.
Après la victoire de 81, on s'interroge sur la réduction du temps de travail. Mais les syndicats trépignent. Alors, François Mitterrand imposera les 39 heures payées 40, une négociation qui sonnera le glas des 35 heures. 1997, Lionel Jospin entrera-t-il dans l'histoire des avancées sociales? Le slogan des 35 heures fut la promesse cardinale des socialistes autour d'une formule, réduction progressive du temps de travail sans perte de salaire.
Réduire le temps de travail sans perte de salaire représente à la fois un progrès économique susceptible de créer de nombreux emplois et un progrès social.
Les 35 heures de travail hebdomadaire à l'aube du 21e siècle, de 39 à 35 heures sans perte de salaire. Cette loi a marqué le passage de la gauche au pouvoir de 1997 à 2002 avec Lionel Jospin qui était Premier ministre, vous venez de l'entendre, et Martine Aubry, ministre de l'Emploi et de la Solidarité. La loi est entrée en vigueur en 2000. Les débats ont été vifs et houleux, deux visions du travail et de la société qui s'opposaient là encore, entre gauche et droite, entre progressistes et libéraux.
En France, le marathon des 35 heures à l'Assemblée, le gouvernement s'accroche à son projet de loi, même si Martine Aubry affirme que ce n'est pas le seul moyen de combattre le chômage. La majorité, elle, resserre les rangs et l'opposition se mobilise. Reportage Michel Lemerle et Jean-Pierre Ekman.
On s'en doutait, le débat l'a confirmé, c'est un véritable fossé qui sépare majorité et opposition sur la loi des 35 heures. Pourtant, Martine Aubry s'est bien gardée de présenter ce texte comme l'arme absolue anti-chômage.
La réduction de la durée du travail n'est pas la solution unique, la solution miracle au problème du chômage. Mais elle doit être engagée avec résolution car elle peut permettre beaucoup de création d'emplois.
Qu'importe cette relative modestie dans la présentation, c'est sur le principe même de ce texte qu'une partie de l'opposition se déchaîne.
Aucun pays au monde n'a jamais fait une bêtise pareille. Même les communistes à la grande époque en Russie ne parlaient pas de ça. Ils étaient stakhanovistes, ils voulaient que les gens travaillent davantage pour produire davantage.
Les centristes plus modérés approuvent les objectifs mais condamnent sans appel la méthode.
On s'y prend très mal parce qu'on dit, en l'an 2000, si vous ne négociez pas, vous serez punis. Et je ne crois pas qu'on fait négocier les gens dans la peur de l'avenir. On les fait négocier dans la confiance.
À gauche, chacun va certes tenter d'obtenir quelques amendements supplémentaires, mais ce texte va surtout permettre de refaire une unité malmenée par la crise des chômeurs, ressouder la gauche plurielle.
La majorité n'a jamais été dessoudée. La majorité, elle est diverse, elle est plurielle. Cette diversité, à mon avis, il faut y veiller, c'est une richesse. Et bien entendu, et bien quand les choses vont de l'avant, nous pouvons nous en satisfaire.
Le projet de loi sur les 35 heures est pour nous le projet le plus important de la législature, donc nous croyons que l'ensemble des composants de la majorité va le soutenir.
Près de 20 ans après cette loi sur les 35 heures, le débat court toujours. Les 35 heures sont appliquées, c'est la loi, même si à la marge elle a été assouplie, mais cette loi sur les 35 heures n'a pas permis de réduire le chômage comme escompté. Cela a donné plus de temps libre, plus de repos aux travailleurs, mais cela n'a endigué en rien la crise de l'emploi. Le chômage a continué d'augmenter. Toutes les politiques ont échoué pour réduire le nombre de demandeurs d'emploi. Et nombre de secteurs d'activité, avec cette loi sur les 35 heures, se sont retrouvés complètement désorganisés. Ces 35 heures payées 39. On est loin en tout cas des premières quêtes de 1848, le décret du 2 mars 1848 qui est l'objet de cette chronique, et c'est 11 heures par jour maximum à l'époque. En 150 ans, la durée hebdomadaire du travail aura été réduite de quasiment la moitié. Le travail, une nécessité, la place du travail dans notre vie de tous les jours. Le dernier mot, nous le donnerons, nous le laisserons à Henri Salvador.
Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.